ce conflit israélo-palestinien met en danger la vie de nos soldats. Et c'est intéressant de savoir que hier, le chef du Mossad, c'est-à-dire le service de renseignement israélien, a fait une déclaration en disant, devant la commission des affaires étrangères du Parlement israélien, en disant, nous sommes en train de devenir de plus en plus un fardeau pour les Américains et pas un atout. Et ça, je dirais, c'est peut-être ce qui peut faire évoluer la situation. Mais pour l'instant, malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué concrètement en tous les cas.
Alors dans le papier que vous donnez sur les blogs du Diplo, vous allez plus loin là, vous donnez des pistes. La France pourrait faire un certain nombre de choses. Est-ce que vous voulez revenir là-dessus ?
Oui, juste un mot. C'est Monsieur Hervé de Charette, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, a interpellé le gouvernement en disant, en gros, vous ne faites rien sur le conflit israélo-palestinien. Et la réponse du ministre, je l'ai trouvée extrêmement pathétique, parce que M. Bernard Kouchner disait, écoutez, si vous avez des suggestions, faites-en. Et alors, j'explique que un certain nombre de ces propositions qui pourraient être faites, une, c'est celle que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on affrète des navires pour Gaza. M. de Charette proposait que l'Union européenne prenne en charge le port de Gaza et qu'à travers le port de Gaza, on achemine l'aide internationale sous le contrôle de l'Union européenne pour éviter, évidemment, qu'il y ait des armes ou des roquettes qui arrivent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Israël ne paye aucun prix pour son occupation. Rien. Comme en plus, la situation, entre guillemets, militaire est assez stabilisée, qu'il n'y a plus d'attentats, etc., c'est que le gouvernement, malheureusement, pas seulement le gouvernement, le peuple israélien peut très bien vivre dans cette situation. Donc, s'il n'y a pas un prix à payer à cette occupation, ça risque de continuer. Et puis, il y a un autre problème qu'on n'a jamais abordé, et je trouve qu'on devrait l'aborder. Vous savez qu'il y a le soldat Gilad Shalit qui est emprisonné à Gaza, et je pense que, comme toute forme de prise d'otage, c'est quelque chose qu'il faut refuser, même si on peut dire qu'il y a 7000 ou 8000 prisonniers politiques palestiniens. Mais c'est un vrai problème que des citoyens français disposant de passeport français fassent leur service militaire dans une armée d'occupation. Ça, c'est aussi un problème. Et je disais tout à l'heure, dans un de ses envois au blog, le ministre français a fait une première déclaration après les événements de la flottille pour dire qu'il n'y a pas de citoyens français qui ont été tués. Et moi, j'ai posé la question, mais est-ce qu'il y a des citoyens français qui ont été parmi ceux qui ont tué ? Est-ce que dans ces commandos de l'armée israélienne, est-ce qu'il y a des citoyens français ?
Ce serait possible.
C'est tout à fait possible. Et je pense que ça pose un problème. Le problème, vous savez, en France, vous avez le droit de choisir de faire éventuellement votre service militaire dans votre pays d'origine ou non. Par exemple, les jeunes Algériens peuvent décider de le faire s'ils le souhaitent en France. C'est un choix qui est tout à fait normal. Autre chose, c'est pas le fait de faire son service militaire en Israël, c'est d'être, par exemple, en Cisjordanie, que la France considère comme un territoire occupé, que les Nations Unies considèrent comme un territoire occupé, et donc de mener des actions illégales. Et que c'est des citoyens français qui mènent des actions illégales, et que ça, là aussi, le gouvernement français pourrait faire quelque chose.
Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette histoire ? Oui, attendez, on va vous donner un micro.
J'aimerais savoir quelle est l'analyse géopolitique que vous faites de la montée en puissance de la Turquie dans cet épisode-là, en dehors du fait qu'il y a un bateau.
Vous avez tout à fait raison, je veux dire, on a l'émergence d'un rôle de la Turquie qui est liée aussi à son développement économique. C'est pas particulier à cette région. Je veux dire, on sent bien aujourd'hui, avec la montée du Brésil, de la Chine, de l'Inde, qu'il y a de nouvelles puissances qui jouent un rôle important. Mais par rapport à une autre période, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ces puissances, en particulier la Turquie, qui joue ce rôle de plus en plus actif, comment dire, c'est pas des ennemis des Occidentaux. C'est même pas des ennemis des États-Unis. Vous savez que la Turquie, elle est membre de l'OTAN. Elle est alliée à Israël, je l'ai dit. Donc, il y a tout cet aspect. Et en même temps, ils veulent jouer un rôle indépendant. Et au départ, c'est-à-dire là, les relations avec Israël se sont beaucoup dégradées. Mais ils souhaitaient jouer un rôle de pont entre notamment la Syrie et Israël, ou entre les Palestiniens entre eux pour essayer d'obtenir une réconciliation nationale entre le Hamas et le Fatah, ou entre les Palestiniens et Israël. Donc il y a un rôle croissant, il y a une popularité maintenant de Erdogan, le Premier ministre, dans le monde arabe et musulman qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, mais pour que ce rôle se transforme de manière positive, encore faut-il que du côté israélien, il y ait un interlocuteur, mais c'est vrai que, si vous voulez, dans cette crise actuelle, la seule perte concrète pour Israël, au sens pas seulement le prestige, c'est la mise en cause de la relation israélo-turque qui inquiète une partie de la classe dirigeante israélienne.
D'autres question là-bas.